culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous accueillir pour le culte espoir d'aujourd'hui. Chers amis qui nous écoutent, j'espère que tu passes une bonne journée et que ce moment de discussion et partage autour de thèmes bibliques va t'apporter encore plus de joie et de pensées positives pour toute la journée. Les femmes sont uniques, créées à l'image de Dieu, fragiles pour quelques-uns et les êtres les plus forts au monde pour d'autres. Que pensons-nous des femmes ? Aujourd'hui et aussi pour les trois prochains programmes, nous allons parler de quelques femmes de la Bible. Pour rendre cette émission encore plus enrichissante, je ne suis pas toute seule. J'ai en ma compagnie Marilyn et Joachim. Salut les chroniqueurs!
Bonjour. Bonjour! Ça va?
Très très bien, et vous?
Ouais, super!
Ça fait plaisir d'être là.
Ah bah ça me fait aussi plaisir. Et tous ensemble, nous recevons notre invitée spéciale, Sandra Gonçalves. Salut Sandra.
Salut, ça va?
Très bien, sois la bienvenue.
Merci.
Et bien voilà, c'est un privilège pour nous de t'avoir ici avec nous. Et Sandra, nous constatons que la Bible mentionne un bon nombre de femmes. D'après ce que je vois, nous pouvons toujours tirer de leçons de leur vécu et de leurs expériences. Pour cette toute première émission, avec toi, de quelle femme vas-tu nous parler?
J'ai choisi Rahab.
Rahab. Pourquoi?
Elle est étiquetée par la société à cause de son statut. Mm-hmm. Elle mène ses combats, mais malgré tout ça, elle continue à lutter, elle lutte pour s'en sortir. Et jusqu'au moment où elle fait sa rencontre avec Dieu, et avec lui, il y a pas de préjugés, il n'y a pas d'étiquette, tout tombe par terre en fait. Et j'adore cette rencontre.
Génial. Je nous souhaite un bon programme et je souhaite surtout que Dieu soit avec nous tous. Toi qui nous écoutes, que tu sois homme ou femme, j'espère que tu apprécieras les précieuses leçons que nous pourrons apprendre avec l'histoire de Rahab aujourd'hui. Et c'est parti pour la chronique « Dieu dans ma semaine ». Que vas-tu partager avec nous, Joachim ?
Oui, aujourd'hui nous allons parler de combat. Alors si je commence à réfléchir, actuellement il y a quelque chose qui me travaille. En fait, c'est par rapport à la lecture de la Bible et puis de sa compréhension. Alors voilà, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je ne comprends pas toujours ce que je lis. Je dois avouer qu'il est même rare que je comprenne du premier coup ce que le Seigneur veut m'enseigner.
Oh là, t'es un peu trop dur, je pense. Hein?
Ou alors, j'ai l'impression de comprendre sur le coup, mais après, c'est pas ça, j'oublie, et puis j'arrive pas à trouver la réflexion du début. Je dois dire que ça me décourage parfois, hein, quand même. Puis c'est drôle, parce que dans mon aventure avec Dieu, il m'a placé derrière le micro de cette émission du culte espoir, justement, là où je dois écrire des chroniques et construire des réflexions à partir d'un texte biblique. Alors, que faire quand dans ta tête, il y a une petite voix qui te dit « t'es pas capable, tu vas pas y arriver, tu n'es pas à ta place » ou encore « ce n'est pas fait pour toi ». Il est essentiel, je pense, de reconnaître que ce sont des mensonges que l'ennemi nous souffle à l'oreille pour nous décourager.
Ça, c'est sûr.
Alors, tourne-toi vers la prière et écoute la voix de notre Père Céleste. Rappelle-toi de ses promesses et n'oublie pas qu'il t'équipe pour aller au combat.
Et toi-même, alors, quelles sont les solutions que tu as trouvées pour ton combat?
Tout d'abord, à la radio, je peux compter sur une équipe extraordinaire qui m'aide dans l'écriture de mes chroniques, mais surtout qui me pousse en avant. Et là, je peux te dire que Dieu, il sait envoyer les bonnes personnes.
C'est super.
Après, d'un point de vue plus personnel, je prends plus de temps pour lire la Bible chaque jour. J'étudie également des textes de la Bible avec un pasteur. C'est passionnant, c'est jamais facile pour moi de comprendre, mais cela m'aide et ça m'a aussi beaucoup aidé déjà. Mais je pense que l'essentiel, ça se trouve dans la prière. Prie avant de lire, demande à Dieu le discernement, la compréhension et l'inspiration au travers du Saint-Esprit et ça deviendra déjà beaucoup plus clair. C'est souvent lorsque nous sentons nos combats personnels perdus d'avance, mais que nous obéissons à Dieu qu'il nous aide à le servir à travers nous, car il est à sa juste place et il guide toutes choses.
Et ça, c'est vrai, Joachim. Dès le moment où nous lui confions nos batailles, nos combats, Dieu est toujours présent pour nous aider, n'est-ce pas? Dieu vient nous chercher là où nous nous trouvons et il a des projets merveilleux pour chacun de nous. Ça vous rassure?
Oui.
Moi aussi. Et nous pouvons faire confiance à Dieu car il a promis d'être toujours là pour nous, pour chacun de nous. Ce que tu as promis est la chanson que nous allons entendre tout de suite.
Oui, Seigneur, tu nous donnes la vie et tu nous la donnes en abondance, Seigneur. On veut juste t'exprimer notre reconnaissance et te dire merci pour toutes ces choses que tu fais, pour toutes ces fois où tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire.
Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence. Elle fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me
Je continuerai sans
je sais que tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir.
Marilyn, la promesse du jour est là pour nous redonner du courage, pour recharger nos batteries. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui ?
Eh bien justement, ça va un peu dans la suite du chant que nous venons d'écouter. Et ça pourrait bien être d'ailleurs la version chantée du psaume qui contient la promesse du jour. Ce psaume, c'est le psaume 9. Et la promesse est au verset 10. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Ce qui permet à l'auteur de se confier en l'Éternel est entre autres de connaître son nom. C'est un petit peu étrange, non ? Chez les Hébreux, le nom, c'est ce qui donne les caractéristiques d'une personne, ce qu'elle est. Et l'auteur nous indique un petit peu un aperçu de ce qu'il est dans le reste du psaume. Il va définir plusieurs attributs de Dieu. Par exemple, il règne, il juge, il fait justice, il se souvient des malheureux, il est un refuge. Voilà plein de raisons pour lesquelles il a pu se confier en lui. Et le texte du jour, c'est aussi une promesse de ne pas revenir à vide. Parce que ce Dieu qui agit, dans le psaume, il raconte que face aux difficultés, Dieu s'est montré présent et il l'a délivré. Et bien, ce même Dieu qui agit n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Alors, une belle promesse. Ceux qui te connaissent, connaissent ton nom, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent.
Connaître Dieu et se confier à lui. Voilà la réponse. Quels sont tes soucis en ce moment ? Quels sont tes combats ?
Quotidiennement, nous sommes confrontés à des problèmes, n'est-ce pas, de plusieurs sortes, des problèmes de santé, soit les nôtres ou encore les problèmes de santé de nos proches.
Ouais, il y a aussi les préoccupations financières, recherche d'emploi, encore conflits relationnels. Face aux difficultés de la vie, je te propose de confier à celui qui a déjà remporté la victoire. On écoute tout de suite une merveilleuse composition de Mirella, Le Plus Grand.
Tu m'as pris dans ton camp, tu es ma
vous connaissez des héros ?
Quelques-uns, vous voyez.
Ah, alors quand on parle de combat, des fois on parle aussi de héros. Et dans cette chronique Dieu agit, ben, je vais vous parler d'un héros décédé il y a quelques années déjà, qui a mené de grands combats avec une grande équipe, et tout ça le plus incognito possible. Mmh. Il s'appelle Jean Weidner pour les francophones. Il est fils d'un pasteur adventiste et né aux Pays-Bas. Ensuite, il a étudié pas très loin d'ici, en France, au campus adventiste de Collonges-sous-Salève, juste à la frontière de Genève.
Ouais, effectivement, pas loin du tout.
C'est ça. Hein. Cette école est au pied du Salève. Alors, à côté de ses études, comme il est passionné de montagne, eh ben, il va en profiter à fond et ça lui sera très utile. Plus tard, il va s'installer à Lyon et fonder un commerce de textile. Et puis, c'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Avec le partage de la France et des différents pays qui commencent à être envahis, aussi les Pays-Bas d'où il vient. Il a alors 28 ans. Et il cherche à répondre aux besoins des ressortissants néerlandais, internés dans les camps de réfugiés français. Dès 1940, il commence à faire des visites. En 1941, il va s'impliquer dans la résistance. Et puis, avec un ami, Herman Latsman, un Hollandais, il va cofonder un important réseau de sauvetage, le Dutch Paris. Et à partir de 1942, de plus en plus d'appels au secours des personnes et de familles poursuivies par les nazis lui parviennent, et son action se transforme en un travail de résistance. Il met au point des itinéraires sûrs vers la liberté, dans différentes directions, selon les différentes personnes qu'il va devoir accompagner au cours des années de guerre. Une grande partie des personnes est amenée clandestinement en zone libre depuis les Pays-Bas. Donc Pays-Bas, Paris, je ne sais pas si vous voyez, tout ça en zone occupée.
Incroyable.
Et donc les clandestins passent à Paris, puis ensuite de Paris, ils sont amenés en majorité en Suisse, puis après en Espagne et pour certains en Angleterre, parce qu'ils n'ont pas amené que des Juifs. Ils ont aussi été amenés à prendre des pilotes d'avions, dont les avions alliés avaient été détruits. Donc, ils étaient en danger. Eux aussi, ils les ont rapatriés. Il y avait des politiciens qu'il fallait amener hors de zone occupée. Il y a aussi eu des gens qui voulaient s'engager pour Londres, qu'il a fallu amener à Londres. Donc, c'était un réseau très vaste, en fait. Et pour toutes ces personnes, eh bien, il y a toujours ce problème. C'est le passage de la frontière. Et pour tant pour l'Espagne que pour la Suisse, il y avait la montagne. Et donc Jean était particulièrement connaisseur de la région, par exemple, à Collonges, et il va faire passer plusieurs personnes par les chemins du Salève, parce qu'il n'est pas question de prendre la route. Hein.
Ah non, il faut mieux éviter, là.
Et ils vont traverser au niveau de Bossé, une petite douane pour certains qui connaissent. Et d'ailleurs, il peut compter à Collonges sur un très bon réseau de soutien de différents professeurs, pasteurs qu'il connaît, qui sont sur le campus et qui vont l'aider dans cette tâche. Pour les faire traverser. Pour un petit exemple, parce que l'histoire est très grande. Le réseau s'occupe également d'une aide matérielle, d'un hébergement. Bref, ils ont plus ou moins aidé environ 1080 personnes, dont
c'est
en tout
énorme.
Cas 800 juifs depuis les Pays-Bas. C'est énorme. Et plus de 100 aviateurs alliés. En 1943, Jean Weidner rajoute encore quelque chose de spécial. Il commence à faire du passage de microfilms pour les gouvernements en exil à Londres. Et par exemple, à Paris, c'est sa sœur qui est le point de contact entre les différents agents, entre autres pour les différents messages et aussi pour les microfilms. Avec toutes ces actions, vous imaginez qu'il devient un homme traqué comme tous les membres de ce réseau. Et sa tête est mise à prix par la Gestapo. Il est arrêté à plusieurs reprises et même à Toulouse, on a même décidé sa mort le lendemain, mais il échappe à ceux qui le tiennent prisonnier en sautant d'un immeuble de 3 étages avec son camarade.
Ah ouais, il s'en est sorti. 3 étages.
Il s'en est sorti. Sillonnant plusieurs pays à l'aide de faux papiers d'identité, il a réussi à faire fonctionner le Dutch Paris dans la plus parfaite clandestinité, ou presque. Et ça, du fait que la majorité des gens étaient en fait des citoyens. Et c'est la différence avec la majorité des autres réseaux de résistance qui étaient souvent menés par des alliés militaires, alors que eux, c'était des citoyens de tout type, de toute religion qui travaillaient ensemble. Malheureusement, il y a eu une interpellation en particulier qui a eu de grandes conséquences. Une jeune femme qui, sous la pression, a révélé les actions en cours. Et ça a conduit à beaucoup d'arrestations. Au total, sur la période de la guerre, on compte 40 morts au niveau des membres de ce réseau, qui en comptait donc 300. La sœur de Jean Weidner a payé un lourd prix, dont entre autres sa sœur, qui a été emprisonnée. C'est une des décisions les plus dures de sa vie, de choisir de se rendre ou de laisser sa sœur partir en camp. Donc il a fait ce choix difficile de continuer son travail. Après la libération, Jean Weidner a travaillé plus d'un an encore pour les services secrets néerlandais, pour les aider à identifier les collaborateurs nazis en France. Et puis il va émigrer aux États-Unis, où son nom va devenir John Weidner. Et il a continué à œuvrer pour cette période de l'histoire, pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Pour ses actions courageuses, on peut dire, c'est raconté très brièvement, mais je vous donnerai quelques idées pour aller lire plus d'informations. Il a été le Néerlandais le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs pays l'ont reconnu, les États-Unis avec la médaille de la liberté, la France, médaille de la résistance, Légion d'honneur entre autres, aussi les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre.
Il a été bien reconnu.
Oui, hein. Et même Israël en 1978, parce qu'il a été reconnu comme juste parmi les nations. Et puis en 1993, il a été l'une des 7 personnes choisies pour allumer les chandelles lors de l'inauguration du musée de l'Holocauste aux États-Unis. Il est décédé en 1994. Et au sujet de son engagement pendant la guerre, on lui a demandé pourquoi il s'est soumis à une telle épreuve 3 ans durant. Et il a répondu « Au cours de notre vie, nous sommes tous amenés à être confrontés au choix de ne penser qu'à soi, d'amasser le plus possible ou de penser aux autres, de rendre service, d'être utile à tous ceux qui sont dans le besoin. Je crois qu'il est important d'écouter notre cœur, d'ouvrir notre cœur à la souffrance des autres. » Sous l'impulsion de la fondation John Henry Weidner, qui est aux États-Unis, c'est une fondation pour l'altruisme qui commémore un peu toute cette action du réseau Dutch Paris. Ils ont mandaté Megan Corman pour faire des recherches et retracer l'histoire de ce réseau. Et ça a été fait dans le livre The Escape Line. Elle-même, elle est la fille d'un résistant néerlandais. Et il y a un autre récit qui est traduit en français, celui-ci. Il est de Herbert Ford, Flee the Captor. En français, c'est Le Passeur, qui raconte toutes ces aventures extraordinaires d'un homme ordinaire qui a su agir selon ses convictions religieuses, s'allier à d'autres et mettre ses capacités et sa vie en jeu pour sauver autrui.
Et maintenant, c'est le moment de t'entendre, Sandra.
Alors, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Rahab. Et son histoire, elle se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 2. Pour vous donner un petit peu le contexte, Moïse, qui était le leader du peuple d'Israël, il avait décédé, et c'est Josué qui devient le nouveau leader du peuple. Sa mission était de faire entrer ce peuple, dans la terre promise, Canaan. La mission semblait compromise car ce pays il était déjà habité par un autre peuple. À l'époque, les villes elles étaient construites à l'intérieur des murs et c'était des murs très hauts et c'était très compliqué de franchir les murs. Donc, qu'est-ce que Josué il va faire? Il va envoyer des espions recueillir des informations sur la ville pour pouvoir traverser ces murs. C'est là qu'on fait connaissance avec une femme cananéenne. Son prénom signifie grande par la foi. Je fais quand même la remarque que Dieu l'avait repérée, cette femme grande par la foi. Son passé n'est pas caché, mais avant d'être connue par sa foi, elle est mentionnée 8 fois dans la Bible et 5 d'entre elles, elle est mentionnée comme prostituée. Elle subvenait aux besoins de sa famille grâce à la prostitution, qui était une pratique courante à l'époque. C'est chez elle, en fait, que les espions, ils sont envoyés, ils vont rester chez cette femme, chez Rahab. Et lorsque les gardes viennent pour le chercher, parce que très vite, on va savoir qu'ils sont dans la ville, Rahab va essayer de les livrer et elle va les cacher. Elle aurait pu les livrer, mais elle a appris que le peuple d'Israël marchait pour conquérir sa ville. elle avait entendu parler de ce Dieu qui avait fait des prodiges et des miracles à travers ce peuple. On peut le voir, par exemple, Josué 2, du verset 8 à 21. Et elle savait aussi comment Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte en faisant traverser le peuple par la mer Rouge. Elle a dû être discriminée, cette femme, maltraitée. Elle se dit que c'est peut-être le bon moment de changer sa vie. Peut-être elle a dû se battre pour ne pas continuer dans la vie qu'elle menait. Et à un certain moment de sa vie, elle a pu commencer à rêver de ce Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël. Voilà, c'est dans cette démarche qu'elle cacha les espions en les faisant monter sur le toit. Elle donna des fausses informations au roi et ainsi elle a pu sauver les deux espions.
Elle a pris des risques.
Elle a pris des risques. Rahab était certaine par rapport au texte qu'on peut voir, Josué 2:9 par exemple, elle était certaine que Dieu allait donner Jéricho au peuple d'Israël. Elle connaissait le Dieu, peut-être pas dans toute sa globalité de Dieu, mais elle savait que, voilà, qu'il était Dieu et elle avait foi en ce Dieu. Ce Dieu qui n'était pas connu par ailleurs des siens. Les siens, ils ne connaissaient pas ce Dieu.
C'est incroyable. En fait, elle a juste entendu parler et de tous les bienfaits que ce Dieu avait fait. Et elle a fait confiance.
Tout
et
à fait.
Et elle est allée loin, du coup, parce qu'elle aurait pu mourir.
Tout à fait.
Vu qu'elle a menti.
Tout à fait. Donc, ce peuple, il n'hésitait pas à sacrifier les enfants aux divinités solaires. Il y avait la prostitution qui était pratiquée entre les humains et animaux. Et au milieu de ce climat, elle est prête à saisir cette opportunité de rompre avec sa culture, avec ses croyances de ce peuple et partir, voilà, faire une nouvelle page dans sa vie. En récompense pour cet acte, en fait, courageux, qui a permis en fait les espions de mener en bien sa mission, leur mission. Les espions promettent à Rahab d'épargner elle et sa famille lorsqu'ils viendront pour détruire la ville. Et c'est ainsi que Rahab et sa famille sont sauvés. J'ai quand même pas mal réfléchi à son histoire parce que tout le monde a des luttes, tout le monde a des combats et je n'ai aucune idée des luttes que chacun mène dans la vie quotidienne. Mais je sais qu'il y a des combats et je sais que tout le monde endure des épreuves. Il y a des épreuves. Tout le monde fait face à la tempête. Et des fois, on a la tendance à désanimer face aux obstacles. J'ai pu travailler en oncologie et accompagner des gens qui sont en récupération parce qu'ils ont le cancer. Et en parlant avec les gens, j'ai pu entendre qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu, ils n'ont pas envie d'entendre même pas parler de Dieu.
Et, parce qu'il y a une certaine révolte.
Peut-être, peut-être. Mm. Et aujourd'hui, comme Rahab, on a cette opportunité d'entendre parler de Dieu, d'entendre ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Et pourquoi on franchit pas le pas, en fait. Rahab a su saisir l'opportunité. Et je me suis posé la question, est-ce que les espions avaient besoin d'aide ou Dieu a choisi cette femme pour qu'elle puisse être aidée elle-même? En tout cas, elle a su saisir cette opportunité. Elle a su accepter le pardon de Dieu. Être femme à cette époque, c'était pas évident. Et être une femme prostituée, je ne sais pas comment...
Ah, ça devrait être encore pire.
Voilà, je ne sais même pas comment elle a pu se sentir, mais en tout cas, elle accepte ce pardon de Dieu. Ce pardon que Dieu, il peut changer sa vie. Je ne sais pas si elle mesurait, en fait, à ce moment, tout le changement que Dieu il pouvait faire dans sa vie. Mais en tout cas, si Dieu il donne la possibilité à cette femme païenne de changer de vie, il y a encore la possibilité aussi pour nous de changer. Je ne sais pas, aucune idée de qu'est-ce que vous subissez à chaque jour, vos combats. Je sais qu'il y en a, il en existe. Mais je peux vous dire qu'on a besoin de croire en ce Dieu et de lui rendre notre vie pour qu'il puisse changer notre histoire. Je ne connais pas ton histoire, à quel point tu te trouves dans le chemin sans retour. Mais sache que tu peux tout changer si tu crois en Dieu et si tu décides d'accepter comme rédempteur et sauveur. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle est restaurée. Et elle fait même partie des 5 femmes qui vont faire partie de la généalogie de Jésus.
Ouais, ça, c'est incroyable.
Ça, c'est vraiment extraordinaire. Dieu te donne cette opportunité de refaire une nouvelle page de ton livre, l'opportunité de changer ton histoire. Il suffit de croire dans cet amour qu'il a, dans la puissance que Dieu a, puisqu'il est capable de modifier toutes circonstances. Peu importe ton combat, ce qui, à nos yeux, est impossible de gérer, Dieu, il va rendre possible.
Chers auditeurs, est-ce que tu aimes regarder des films? Et vous ici dans le studio, vous aimez voir des films?
Oh, oui.
Bons films. Oui. De bons films, ok, de temps en temps, souvent. Oui. Ok, alors imagine-toi dans le calme de ton salon et dans le confort de ton canapé. Parce que je vous propose aujourd'hui un très beau film inspiré d'une vraie histoire, Blue Miracle. Ce film, produit par Julio Quintana, met en lumière les conditions difficiles ainsi que la violence au Mexique. Et malheureusement, ça touche particulièrement les enfants. Nous découvrons dans ce film un orphelinat pour garçons, Casa Hogar, dirigé par Omar Venegas, qui est appelé Papa Omar, et son épouse. Malheureusement, cet orphelinat est menacé de fermeture en raison d'un surendettement aggravé par l'ouragan Odile survenu en 2014. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ne reçoivent plus de dons et leur avenir est au plus sombre. Mais voilà qu'ils peuvent se projeter et avoir une lueur d'espoir parce qu'il y aura un concours de pêche. Et pas n'importe quel concours, le plus prestigieux du monde bisbille qui se déroule au Mexique. À ce moment-là, on se régale avec de beaux paysages de la mer. Pour ce tournoi, les meilleurs pêcheurs s'y retrouvent pour rechercher la richesse et la gloire. C'est vraiment un des concours de pêche les plus réputés au monde. Ce prestigieux concours, normalement réservé aux professionnels, manque cette année-là de concurrents à cause justement de l'ouragan qui vient de frapper le pays. Le concours est donc ouvert aux locaux. C'est l'occasion inespérée de gagner le prix qui est un gros chèque. Et de cette façon-là, sauver l'orphelinat. Quelques garçons de l'orphelinat vont donc y participer avec Papa Omar, le responsable de leur pension. Ils vont s'associer notamment avec Wade Mulloy, pêcheur aguerri, égocentrique et bourru, qui a déjà gagné 2 fois auparavant en pêchant un énorme marlin bleu. Le film nous amène à suivre cette équipe improbable tout au long de cette compétition. Une forte pression règne sur les concurrents. Rien ne va comme ils voudraient, ça pendant les premiers jours, mais ensemble, ils devront surmonter bien des épreuves.
Il ne reste plus qu'un jour. Et à ce moment-là, on est vraiment captivé par l'histoire. Bien entendu, au-delà de la compétition, c'est bien le parcours de ces différents hommes qui nous interpelle. Comment Wade Meloy va, au travers cette aventure, être invité à repenser ses choix, repenser sa vie et ses objectifs de vie, ses valeurs à travers un nouveau prisme? Comment Omar Venegas va devoir faire preuve de confiance en les promesses de Dieu quand tout lui semble indiquer qu'il n'y a plus d'espoir? Comment chaque orphelin va se positionner face à un départ dans la vie tellement éprouvant pour y trouver du sens? À travers ce film, nous pouvons constater que la vie n'est pas toujours facile, mais il faut toujours, malgré tout, s'accrocher et avancer en gardant l'espoir, en gardant confiance. Ce film pourrait nous sembler un peu trop incroyable, sauf que son histoire est ancrée dans une histoire bien réelle. Comme quoi, la réalité dépasse souvent la fiction et la réalité avec Dieu nous fait apercevoir souvent à travers les combats des miracles improbables aux yeux des hommes. Découvrons ensemble la bande-annonce.
Moi, c'est Omar. Et les garçons m'appellent Papa Omar. Ça te dirait de nous rejoindre?
Vous rejoindre?
Ouais, à Casa Hogar.
Je suis pas orphelin.
Je viens de passer la serpillière.
Ils viennent de la rue. Laisse-leur un peu de temps pour apprendre des bonnes manières.
Toi, ça fait 20 ans que tu les apprends, Omar.
Everybody has their trials and their tribulations. Ok, un peu de silence s'il vous plaît les garçons. L'ouragan va arriver sur la côte d'ici quelques heures. La bonne nouvelle, une fois qu'on aura fini de dîner, on installera 500 sacs de sable pour éviter de se faire inonder.
On est des orphelins, c'est pas pour ça qu'on est des idiots. Dieu a peut-être voulu réunir tous les gars du coin qui ont pas de chance dans un seul bâtiment pour tous les écraser en même temps.
Non, c'est trop taré.
L'ouragan Odile devrait être le plus violent que nous ayons connu depuis plusieurs décennies.
Et les provisions? Il nous en reste beaucoup?
Environ une semaine.
Je suis le capitaine Wade Meloy. Et jusqu'à maintenant, je suis le seul double vainqueur du Bisbee Black and Blue.
C'est le tournoi de pêche le plus coté du monde. Et les meilleurs, ils peuvent remporter des millions de dollars.
Désolé, mon vieux, tu peux pas t'inscrire sur cette liste.
Qu'est-ce que tu dirais de me mettre en équipe avec un pêcheur du coin? Je ne demande pas forcément de me trouver quelqu'un de beau. D'ailleurs, j'ai même pas besoin que ce soit un vrai pêcheur. Quoi, ces gamins? Attends, tu rigoles?
Je vous explique. Vous et trois de vos orphelins les moins casse-pieds pourraient venir sur mon bateau pendant la durée de la compétition. Quand je pêcherai le poisson gagnant, on partagera les gains. Comprenez?
Je sais pourquoi ma mère m'a quitté maintenant.
Allons bon, pourquoi?
Pour vous aider à gagner le tournoi de pêche.
Sûrement, oui. C'est parti!
Ouais! Ça marche!
Papa!
On n'a jamais été en état de gagner.
Mais on doit quand même essayer.
Chère Sandra, tu as animé ce premier culte avec nous et je crois que tu vas en faire encore trois autres. Nous aimerions donc faire connaissance avec toi et te connaître un peu mieux grâce à cette chronique qui s'intitule « Questions et vérités ». Nous allons te poser quelques questions sur ta vie chrétienne. Tu pourras y répondre en quelques mots, si tu veux, par des anecdotes personnelles. Alors commençons si tu le veux bien.
Ok.
Dis-moi, quel est ton livre préféré de la Bible ?
Ça, c'est très compliqué parce que j'adore l'Ancien Testament. Mais vraiment, si je dois choisir un livre, je choisirais le livre de Daniel.
Daniel, ok, bien. Un livre bien difficile, en fait.
Ouais.
Tu aimes les défis.
J'aime les défis.
Et tu aimes les prophéties.
Aussi.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a un verset qui te donne du courage, enfin qui te booste?
J'aime bien Ésaïe 41, 10. Qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. ne t'inquiète, ne promène pas de regard inquiet parce que voilà, je suis là.
Ça, et c'est une belle promesse. Ouais.
Et on avance dans la confiance.
Tout à fait.
Ouais. Ah, c'est sûr que là, quand on s'accroche à ce verset, bah, on ne craint plus grande chose. Hein.
Est-ce que tu as déjà vécu un moment qui t'a demandé beaucoup de courage? J'imagine, mais...
Le plus grand moment de ma vie que j'ai eu vraiment besoin de courage, c'est à la naissance de mon fils. Donc, il est né, il a perdu l'oxygène à la naissance. Du coup, on nous a annoncé qu'il allait être handicapé. Et du coup, voilà, c'était compliqué à gérer pour mon mari, pour moi-même.
Et c'était ton premier enfant?
Mon premier enfant. J'étais étudiante en théologie à cette époque. Et je me suis posé vraiment beaucoup de questions parce que, voilà, le but, c'était de servir Dieu, de faire les choses pour Dieu. Mmh. On était à fond. Et c'était comme si il y avait eu un moment de freinage à temps un petit peu. Et voilà. Et du coup, on a dû gérer aussi le fait, voilà, est-ce que je continue mes études? Est-ce que je vais me dédier à
J'arrête
mon fils?
Tout pour m'occuper de l'enfant.
Donc, il y a eu vraiment des moments de doute. Et on a eu vraiment besoin de courage. Et c'est ce verset, en fait, n'aie pas peur parce que je suis moi-même avec toi. Ça m'a fait vraiment du bien, personnellement.
T'as aidé à
j'ai
tenir.
Senti, oui, tout à fait. J'ai senti que Dieu, il était présent et qu'il allait pas m'abandonner, en fait.
Et aujourd'hui, il a quel âge, ton enfant?
Aujourd'hui, il a 20 ans.
20 ans, waouh! Alors, 20 ans. Vous avez bien relevé le défi.
Tout à fait, j'ai pu terminer mes études.
Incroyable.
Donc, voilà.
Et tu as eu d'autres enfants?
Et j'ai eu d'autres enfants.
Ah bah, tu vois, t'as eu vraiment du courage pour continuer ta vie, continuer tes projets.
Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu.
Et j'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? Qu'est-ce qui était ton inspiration dans ce thème?
Je suis quotidiennement à la recherche de Dieu, à la recherche de qu'est-ce qu'il veut pour moi. Et quand Mildred elle m'a proposé de faire ses prédications, j'ai dit, mais ses réflexions bibliques, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien choisir comme femme? Il y avait déjà des femmes que j'avais prêchées. Mais après, j'ai commencé vraiment à entrer par rapport aux besoins que moi-même j'ai les besoins que moi-même j'ai. Donc, je me suis mis à la prière. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je travaille. Voilà, le fait que Dieu, il est là pour me pardonner. Il me donne ce pardon, le moment d'adoration, le moment d'engagement, le moment de d'intercession. Ça, ce sont des moments que je pense que nous tous, nous avons besoin, en fait. Pour la progression, en fait, il y a une progression qu'on fait avec Dieu et on commence pas par l'engagement. On commence pas pour intercéder pour quelqu'un, on commence pour faire un travail personnel sur soi-même. Et je pense que voilà, ces femmes, elles m'ont aidé à faire voilà, ce cheminement. Et je suis contente pour ça.
Ouais, c'est vrai que tu as super bien choisi parce que Rahab est vraiment un exemple d'une personne qui a été sortie de la misère, on va dire. Hein?
Exact.
Parce qu'elle était au plus bas de la population de l'époque, de la société, et Dieu l'a relevée à tel point, comme tu as dit dans ton partage biblique, qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus.
Tout à fait, c'est une révolution là. mais c'est étonnant, voilà. Et ce que je trouve très intéressant avec Rahab, c'est que voilà, c'est une femme que petit à petit, elle va prendre connaissance de ce Dieu et elle va accepter le pardon que Dieu lui donne. Elle sait que voilà, que c'est ce Dieu qu'elle veut. C'est quand même incroyable de vouloir un Dieu, de vouloir quelque chose qu'en elle-même, elle n'en avait pas. Elle a appris ça en écoutant. C'est vraiment impressionnant.
Alors, on comprend bien pourquoi tu as choisi ce thème. Est-ce que quelqu'un a encore d'autres questions?
Ah, j'en aurais encore plein d'autres, mais est-ce que tu as du temps pour nous?
Alors, écoutez, si personne n'a d'autres questions, je te remercie, Sandra, d'être prêtée à notre jeu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.
Alors, nous voilà arrivés à ce moment où nous voudrions nous adresser à notre Père Céleste pour lui confier ce qu'on a découvert, ce qui nous parle, et voilà, lui remettre tout ça. Et je voudrais te proposer, Sandra, de prendre ce moment de prière avec nous, s'il te plaît.
Prions ensemble. Papa, c'est vraiment un privilège de pouvoir te parler, de pouvoir t'écouter. Et je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont de l'autre côté, en train de d'écouter. Et je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit il puisse travailler dans leur cœur, ainsi comme le nôtre. Et nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin aussi de sentir que tu nous pardonnes, qu'on peut changer de vie, qu'on peut changer les situations. Et malgré les combats, on peut compter sur toi. Tu es là, tu es présent. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de continuer à bénir chacun d'entre nous, les projets, les choses qu'on va entreprendre dans notre vie, que tu puisses nous guider. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.
Amen.
Nous arrivons gentiment à la fin de cette émission, mais passons la chronique Action. Quel défi, Joachim, tu nous proposes pour cette semaine ?
Eh bien, pour cette semaine, je te propose de prendre la décision de ta vie.
Ah, carrément !
Ah ouais, carrément ! Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta vie de foi, chère auditrice ou cher auditeur, mais cette chronique va être l'occasion de te positionner. Je t'invite, si tu le désires, à faire le pas. Comme Sandra nous a parlé, c'est-à-dire de prier Dieu quand le culte sera fini. Dis-lui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, viens prendre ta place dans mon cœur, je confesse tout ce qui dans ma vie a pu me séparer de toi. Une fois que tu as fait cette prière, ce sera l'occasion de déposer à ses pieds tout ce que tu voudras confesser. Dis-lui que tu veux le suivre et que tu veux le servir. Et si, chère auditrice ou cher éditeur, tu as déjà donné ta vie à Jésus, je t'invite à utiliser cette occasion pour renouveler ton encouragement auprès de lui.
Et là où tu es ce matin, abandonne tout entre ses mains. Remets-lui ta vie, ton cœur, tout ce qui peut te peser lourd. Abandonne entre ses mains. Et vois comment Dieu va agir. Vois comment Dieu va guérir. Vois comment Dieu va te relever, te restaurer. Mais toi, fais le premier pas de foi et abandonne tout entre ses mains.
Chers amis, je vous remercie pour votre participation à ce culte. C'était un vrai plaisir d'être en votre compagnie. Sandra, tu nous as rappelé que Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous donner une nouvelle vie. Pour ça, il faut juste qu'on l'invite à faire partie de notre existence. La semaine prochaine, tu reviens et tu vas nous parler de Marie, la sœur de Lazare. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Chers amis qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ton soutien et pour ta fidélité. Souviens-toi, peu importe où tu te trouves,
Peu importe ton passé, Dieu a le pouvoir de changer ta vie car il t'aime et il souhaite te donner une vie de victoire, une vie heureuse. Déclare ta foi en Dieu, parle avec lui. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour être à tes côtés. Il t'accepte tel que tu es. Alors je te souhaite une belle journée, un joyeux sabbat et à très vite.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.